bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes le vendredi.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le Canu Info, ça y est, c'est l'heure. Et on va commencer par vous parler de la victoire des éboueurs.
Et alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le casque qui grésille, mais bon, du coup, j'ai parlé avec ma voix grésillante, c'est super sympa, j'ai l'impression d'être dans les années 50. Donc je vais vous parler des émeutes et de la répression dans les crats à Saint-Exupéry et à Vincennes.
Et ensuite, on va vous parler de la fin du plan froid à Lyon et aux alentours et de comment des familles sont mises à la rue.
Et ensuite, on vous parlera des émeutes et des répressions dans les crats de Saint-Exupéry et de Vincennes.
Puis, on vous parlera de la grève des urgences parisiennes qui gagne du terrain.
Et on verra comment encore et toujours la police cette semaine et les semaines d'avant, c'est de la merde.
On vous parlera de la récupération sur les cendres de Notre-Dame de Paris.
On partira ensuite à l'international où on verra pourquoi, encore une fois, la marchandise, c'est la mort.
Puis on verra comment la lutte continue au Soudan.
Et si vraiment on a été hyper fort et fort, on pourra vous parler de comment Goldman Sachs est intéressé par la faillite au Venezuela. Et cette semaine, pas d'agenda parce que de toute façon on n'aura pas le temps, mais quand même un petit ACAB.
Sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Le préfet du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulion.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer
pendant la masse sur le rassemblement pour le droit à la région qui a eu lieu
à Lyon. Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et ouais. Non, mais ça grésille, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je continue, mais c'est peut-être que dans mon casque. Alors, du coup, vous vous en fichez, que vous qui écoutez la radio. Mais moi, dans mon casque, ça grésille, c'est pas si facile. Hein. Et bah, alors, du coup, je commence, j'ai l'impression d'être content. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a une victoire sans réserve pour les éboueurs grévistes de Pizzorno. Alors même que les choses avaient pourtant quand même plutôt mal commencé. Parce que, les grévistes sont en grève, du coup, depuis le 2 avril. Et la direction, elle, avait commencé par faire des petites techniques de brisage de grève. Donc, assez illégales. Elle avait embauché des intérimaires pour remplacer leurs grévistes et compagnie. Mais les grévistes de leur côté lâchaient rien et multipliaient les piquets, les actions et les manifestations. Et la direction n'avait même pas hésité à convoquer au tribunal 10 salariés pour avoir exercé leur droit de grève, c'est-à-dire pour avoir mis en place un piquet de grève. Ils étaient accusés d'entrave à la liberté du travail. Donc simplement entrave, c'est-à-dire juste d'avoir fait un piquet de grève devant leur entreprise. Et donc le TGI, notamment grâce à la plaidoirie de leur avocate, mais aussi à plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes pendant l'audience au tribunal, a débouté la direction et a complètement relaxé les 10 personnes qui étaient accusées. Et donc du coup, dès le lendemain, la direction a ouvert les négociations les grévistes ont pu obtenir un certain nombre de choses. Donc, alors je vais vous lire une partie comme ça, mais c'est plus pour rigoler quand même. Et donc du coup, ils ont obtenu 65 euros d'augmentation sur leur salaire mensuel, le paiement des 6 journées de grève et un lissage en fait sur les 6 mois des jours restants. La possibilité, ils ont gagné 4 congés supplémentaires, ils ont gagné des embauches en CDI, l'aménagement aussi des périodes de congés, ce qui leur permet d'organiser leurs vacances en fonction de leurs demandes et pas en fonction de ce que la direction avait décidé. La mise en place d'un interphone qui permet aux chauffeurs et aux personnes qui mettent les poubelles à l'arrière là, de communiquer, du coup d'améliorer leur sécurité, le maintien des équipages ensemble, un banc supplémentaire pour favoriser la sécurité des personnes qui mettent les poubelles à l'arrière, des formations vidéo pour les nouveaux, la prise en charge de 50% des frais de déplacement, l'ajout d'un sorteur, alors ça j'ai aucune idée de ce que c'est, mais bon, ils ont rajouté un sorteur, des équipements de sécurité de meilleure qualité, un deuxième agent d'entretien et surtout l'absence de sanctions à l'encontre des grévistes. Et du coup, en contrepartie, les salariés sont engagés à reprendre le travail dès le lendemain, donc aujourd'hui, et enlever les drapeaux présents sur le site. Donc pas grand chose finalement, en même temps comme la grève était finie, ils n'avaient pas besoin de laisser les drapeaux. Et du coup, tout ça sous fond de la métropole qui en profite pour se faire mousser, parce que la métropole a envoyé un ultimatum à Pizzorno pour que des négociations aient lieu jeudi, et que du coup sinon Pizzorno aurait dû payer des pénalités financière à la métropole. Et alors les grévistes, eux, disent que c'est pas du tout grâce à la métropole qu'ils ont gagné ça, parce que du coup Kim Elfeld, le président de la métropole, disait bravo à l'accord de négociation qui a été fait entre les grévistes et Pizzorno. Et du coup, les grévistes disent mais non, ça n'a rien à voir avec toi Kim Elfeld, même si t'es bien gentil, ce pourquoi on a gagné, c'est surtout grâce à notre lutte. Et du coup, on leur dit bravo, et on espère qu'il y aura plein d'autres luttes dans plein d'autres secteurs. Et en attendant, on peut vous parler d'une autre lutte qui a lieu, elle, plutôt dans les CRA.
Oui, alors c'est quoi les CRA ? C'est les centres de rétention administrative. C'est les lieux où l'on enferme des hommes et des femmes et des fois des enfants qui sont étrangères, qui n'ont pas le droit de séjour en France et pour cette seule raison sont enfermés. Et souvent, heureusement pas trop souvent, mais quand même souvent déportés dans leur pays d'origine. Depuis quelques mois, les détenus de plusieurs CRA de France sont en lutte afin de se faire entendre pour raconter les violences et les violations de droits qu'ils et elles subissent au quotidien et afin que les CRA cessent d'exister. Samedi dernier, par exemple, 6 personnes ont tenté de s'évader du CRA de Saint-Exupéry, qui est juste à côté du coup, de l'aéroport de Lyon. 3 d'entre elles ont réussi à s'évader, bravo à elles. Les 3 autres n'ont pas réussi, donc elles ont été violemment tabassées par les flics. Elles sont passées à l'hôpital, ensuite à la garde à vue, avant d'être renfermées dans le CRA. Et c'était quelques jours après, une personne a tenté de se suicider. Et les secours de la police ont tardé énormément à arriver. Du coup, ce qu'on va écouter maintenant, c'est l'enregistrement d'un témoignage d'un des prisonniers qui a assisté à ces événements. Il s'agit d'un enregistrement fait par téléphone avec l'accord de la personne. Du coup, la qualité du son est un peu limitée, mais vous pouvez trouver une retranscription de ce témoignage sur Rébellion si vous voulez lire davantage.
Ok, il y a 2 jours, j'ai arrêté de faire une tentative de s'évader. Il y en a 3 qui ont réussi et 3 sont censés attraper. J'étais grave blessé. 48 heures au garde à vue. J'ai eu aujourd'hui au centre. Sauf qu'il y a un caca tout à l'heure qui a monté sur la porte où il y a le barbelé. Et il s'est suicidé avec le barbelé. Il s'est étranglé avec le barbelé. Et la police, ils n'ont rien fait. C'est nous qu'on l'a descendu. La police, ils ont mis à peu près 25 minutes juste pour ramener une échelle. Elle était même pas loin, 200 ou 300 mètres. Nous, on a voulu récupérer. Malgré tout, il y a des forces entre nous. Donc, on s'est graffé tout le monde. Et on l'a fait descendre. Mais sauf qu'eux, ils nous ont gazé, ils nous ont frappé, ils nous ont violé. Laisse tomber. Ici, tout le monde, ils ont pété un flanc, c'est les mains. Et tout le monde, ils ont commencé à brûler, à brûler les chambres, à brûler les maisons, à brûler tout. Donc ici, les gens ils sont dans des conditions. S'il y a moyen de nous aider, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Notre seul délit, qu'on n'a pas de facile. C'est notre seul délit, notre seul problème dans ce délit. Si vous pouvez appeler les associations, ou appeler les médias, ou appeler les journalistes, ou toutes les personnes qui sont là pour l'humanitaire, pour d'ouvrir, il faut qu'ils soient là pour nous. Pas de cinéma, pas de spectacle, pas de théâtre. Ici, c'est des êtres humains, on n'a pas besoin de théâtre, on n'a pas besoin de spectacle, on a besoin des gens qui luttent pour nous. C'est un message de sens, ce que je veux dire. Et si tout le centre aujourd'hui, vraiment, il y en a assez suicidé. Il y a même pas 25 minutes, il y a même pas 20 minutes, 25 minutes. Il y a du sang partout. Il y a des gens ici qui sont prêts à faire même plus que ça parce qu'on est traités comme des chiens. C'est pour ça qu'on fait appel à tout le monde et à appel de tous. Là, on essaie de se calmer, mais malheureusement, ils nous ont fermés, mais c'est brûlé. Les chambres sont déjà brûlées, malheureusement. Et on a rien, on n'a pas le choix. Si on reste ici, on va mourir brûlé ou on va s'étouffer avec la fumée. Les gens ici, ils ne peuvent plus. En fait, c'est pire que la prison ici. C'est une prison politique, c'est pas une prison humanitaire ici. C'est pas un centre de rétention, c'est une prison. C'est même pas une prison, je sais pas ce que c'est. Il faut aider ces gens-là. Aujourd'hui, on est tout le monde est déterminé, il faut les aider. Je peux plus trop parler là.
Voilà, c'est vrai qu'on entend peut-être pas avec précision ce que cette personne nous raconte, mais on trouvait très important de donner la voix à quelqu'un qui est à l'intérieur du CRA, parce que c'est extrêmement rare que ces voix soient entendues. Du coup, on voulait vous lire quelques témoignages venant plutôt du CRA de Vincennes, mais on n'aura pas le temps. Du coup, on vous invite à aller les lire sur les médias libres comme Réveillon, comme Paris Lutte Info. Il y a aussi un blog qui s'appelle Abat les CRA. Noblog, je pense, .org, mais je ne suis pas sûre. Voilà, et vous trouverez d'autres témoignages de personnes qui non seulement subissent des violences, mais qui témoignent aussi de la difficulté de les dénoncer et de porter plainte. Ces témoignages ne sont qu'un exemple de la violence systémique qui est mise en place dans les CRA. Pour échanger sur ces questions et pour soutenir les détenus dans les CRA, il y a une soirée qui est organisée, une soirée contre les frontières et les prisons, qui est organisée le dimanche 21 avril, ce dimanche, à l'Amicale, à rue Sébastien Griff à Lyon, de 18h à 23h. Donc il y aura des interventions, une projection, des témoignages écrits, des tables de presse et une cantine végane de Libération Animale Solidaire. Et toutes les infos nécessaires pour rejoindre la lutte concrètement. Et il y aura aussi une boîte à dons et sur Rébellion, vous trouverez une liste d'objets qui seront utiles pour des personnes détenues dans le CRA, comme des portables sans appareil photo, des chargeurs de portables, des produits d'hygiène et plein d'autres choses. Et ben voilà, à dimanche.
J'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul. Et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Et on ouvre cette rubrique logement, droit au logement, par un reportage qui a été réalisé autour de la fin de la trêve hivernale à Saint-Étienne, où des centaines de personnes à la rue sont allées occuper la bourse du travail avant de se faire déloger.
Cela fait 3 semaines qu'une bataille fait rage à Saint-Étienne. Une bataille à sens unique. Entre d'un côté plus d'une centaine de personnes sans logement, accompagnées de leur soutien, Et de l'autre côté, la mairie de Saint-Étienne.
Une trentaine de sans-abri a dormi cette nuit à la Bourse du Travail. Parmi eux, des demandeurs d'asile, une dizaine d'enfants et au moins une femme enceinte. En cause, la fin de la trêve hivernale et la fermeture des hébergements d'urgence.
Selon la loi française, les personnes en situation de demande d'asile et celles en situation de vulnérabilité doivent être logées et prises en charge par l'État. C'est la loi. Et c'est bien la situation de ces personnes à qui pourtant rien n'a été proposé.
Les gens qui ont fermé le local des Lauriers hier matin n'ont fait aucune proposition d'hébergement et ils savent pertinemment que ces personnes n'ont aucune ressource pour pouvoir aller à l'hôtel ou louer un appartement.
Une fois virées, celles-ci ont donc tout d'abord trouvé refuge à la Bourse du Travail de Saint-Étienne pendant un peu moins de 2 semaines avant d'être expulsées vendredi 12 avril. Il y a une semaine.
La Bourse du Travail n'appartient pas à l'État. Pourquoi le maire renvoie à la préfecture et au département ?
Évance Richard.
Nous avons eu des conversations avec la mairie
préfet de la Loire
pour faire cesser au plus vite cette situation qui peut poser un certain nombre de difficultés, ne serait-ce qu'en matière de salubrité et peut-être aussi de sécurité selon la façon et le nombre de personnes hébergées à la Bourse du Travail.
Expulsées de la Bourse du Travail sur ordre de la préfecture après une plainte de la municipalité de Saint-Étienne, ces personnes ont trouvé refuge dans une salle de l'université. Mais le repos a été de courte durée, puisqu'elles ont été à nouveau expulsées dimanche matin par la police. Et mercredi, enfin, une commune voisine de Saint-Étienne a mis à disposition une salle pour accueillir ces personnes, seulement jusqu'à la fin des vacances scolaires. Pour pallier à toutes ces problématiques sociales, nous vous proposons donc un petit calcul cynique. Au moins autant que celui de la mairie de Saint-Étienne, la préfecture et les services départementaux, qui tous, main dans la main, ont remis ces personnes à la rue.
C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place.
Qu'on se réjouisse, le projet d'autoroute A45 a été abandonné. Du côté de Saint-Étienne, le budget des collectivités locales s'élevait à 131 millions pour le département de la Loire et autant pour l'agglomération stéphanoise. Au vu des récents événements survenus à la Bourse du Travail et à l'université, nous vous proposons donc de se pencher sur la question « Mais que faire de tout cet argent ?» Le prix moyen d'achat du mètre carré de logement à Saint-Étienne est de 953 euros. Il y a largement moyen d'acheter, puisqu'il y a 11 822 logements vides en 2015, selon l'INSEE. Vu les revendications portées par les occupants, nous proposons une réattribution du budget de la 45 pour les urgences sociales. Premier point, sur les 131 millions de l'agglomération, nous proposons d'attribuer 100 millions pour l'acquisition d'appartements, soit 104 932 mètres carrés, et 31 millions pour la rénovation. Si l'on compte en moyenne un appartement de 60 mètres carrés, soyons larges, pour une famille, deux parents, deux enfants, cela fait 1748 logements pour environ 3500 adultes et 3500 enfants. La stabilité permettra aux adultes de trouver éventuellement un travail pour pouvoir ensuite payer leur loyer par eux-mêmes et de payer des impôts qui financeront les prochains logements sociaux. Les enfants, pour leur part, pourront aller à l'école tous les jours et se construire avec dignité. Deuxième point. Et que faire du budget attribué par le département ? De 131 millions également. Le SMIC annuel est à 18 254,64 euros par an. Soit 1521,22 euros par mois. Le budget départemental pourrait être utilisé pour moitié, 65,5 millions, dans la création de postes de travailleurs sociaux. Si ils et elles sont payés au SMIC, cela fera 3588 postes à 151 heures de travail mensuel, plus un quart temps. Et l'autre moitié, 65,5 millions toujours, serait attribué aux frais de fonctionnement. Matériel de première nécessité, frais de déplacement et heures supplémentaires. C'est simple, non ? Nous ne disposons pas de chiffres pour le coût des opérations d'expulsion menées vendredi matin à la Bourse du Travail et dimanche matin à l'université. Il reste donc une question en suspens. Combien de nuits d'hébergement auraient pu être payées par la préfecture au lieu d'envoyer les forces de l'ordre ?
Ah, c'est pas la peine de vous cacher, je vous ai vu. Hein, vous me dégagez de là, là. Allez, dégagez là-bas ! Gendarmerie, dégagez!
Et si on décidait que l'incendie de Notre-Dame, c'est pas si grave? Qu'est-ce qu'on ferait avec les 750 millions d'euros de dons défiscalisés, collectés pour la reconstruction auprès des grandes fortunes françaises?
Vous savez juste et vous cacher et mentir. Moi, je ne l'ai pas ces problèmes. Moi, j'ai dit toujours la vérité.
Canu Info.
Et même quand je mens, c'est vrai.
102.2.
Et ça expulse non seulement à Saint-Étienne, mais bien sûr à Lyon aussi. La semaine dernière, les centres d'hébergement d'urgence qui avaient ouvert pour le plan froid ont commencé à fermer. En 2 semaines, ce sont 9 centres, plus les hôtels, qui fermeront, mettant fin à l'hébergement des 830 personnes. Sur ces 830 personnes, il y en a 300 seulement qui pourront continuer à être hébergées de façon stable et pérenne et avec un accompagnement social. Ceci parce qu'elles ont la chance d'être considérées comme insérables. 330 personnes seront hébergées de façon temporaire sur des critères de vulnérabilité, par exemple les femmes enceintes, mais très très enceintes, des gros problèmes de santé, les enfants de moins de 1 an. Ces critères sont totalement arbitraires et ne prennent pas en compte les réels besoins des personnes, puisque par exemple, des enfants qui fêtaient leur 1 an quelques jours avant le 31 mars sont vus exclus de ce dispositif. 200 personnes, du coup, les 200 personnes restantes dans notre calcul, n'ont pas eu aucune proposition et ont dû retourner vivre dehors, à la rue, malgré l'obligation de la préfecture de respecter l'inconditionnalité et la continuité de l'hébergement. Donc le 9 avril, une grande partie des centres de plan froid lyonnais ont été fermés et les familles ont été faites sortir des structures. Comme la rue n'est pas une option imaginable, certaines personnes ont décidé de ne pas sortir des centres d'hébergement. C'est ce qui s'est passé ce mardi 9 avril à la caserne Chabal, à Saint-Priest. Caserne, genre ancienne caserne, qui est devenue un centre d'hébergement depuis l'automne 2017 et qui a son sein dans ses locaux un lieu de plan froid et un lieu d'hébergement pérenne. Donc il y a eu des expulsions de familles et il y en a deux qui n'auraient eu aucune autre proposition et qui, bien évidemment, avaient elles aussi des enfants et des problèmes de santé, mais qui n'entraient pas dans les critères de vulnérabilité de la préfecture. Et bien, ces deux familles ont refusé de sortir, demandant à continuer à être hébergées comme c'est dans leur droit. Donc l'Armée du Salut, qui est l'association gestionnaire de ce centre, a décidé de jouer les gros bras plutôt que de suivre ce que la procédure impose, c'est-à-dire demander à un juge l'expulsion des familles. Du coup, le vendredi suivant, vendredi 12 avril, à 6h30, la directrice de l'Armée du Salut de Lyon est arrivée dans ce centre avec des personnes de la préfecture et 4 policiers de la PAF, la police aux frontières. Donc ils ont demandé aux familles de partir et leur ont donné une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Alors que les familles avaient quand même prévenu les chefs de service qu'elles allaient partir le lendemain. Donc ça a été bien évidemment une opération d'extrême violence psychologique, en plus que symbolique. Et en plus, du point de vue administratif, ces familles qui, ça a relevé d'une procédure liée à l'hébergement, sont vues remettre des obligations de quitter le territoire. Il paraît que d'ailleurs faire entrer la police aux frontières dans les centres d'hébergement devient presque une habitude pour l'Armée du Salut parce que déjà en juin dernier, l'intervention de la PAF avait été le moyen choisi pour faire sortir des familles qui se maintenaient dans les lieux après la fin du plan froid. Sans mandat ni droit d'aller chercher ces personnes à leur domicile, sans décision judiciaire, il s'agit bel et bien d'un choix porté par la préfecture et par les dirigeants de l'Armée du Salut. Le collectif Hébergement en danger appelle d'ailleurs un rassemblement ce mercredi matin à 7h devant Semagref, qui est un site aussi lié au plan froid, qui est géré aussi par l'Armée du Salut et qui est situé au 3 Bisquet Chauveau. C'est l'un des derniers lieux du plan froid qui va justement fermer ce mercredi matin. Et c'est l'occasion d'afficher à nouveau le soutien aux personnes qui vont être remises à la rue, mais aussi de montrer que la mobilisation continuera tant que des solutions pérennes ne seront pas apportées aux personnes qui en ont besoin. Tout le monde est invité à venir avec des thermos, des cafés, des croissants et des pancartes.
Et oui, et la politique du logement, elle est tellement pourrie et c'est tellement vraiment 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 de la merde que ça s'entend jusqu'à l'international, puisqu'on a lu dans l'Obs de la semaine dernière que la rapporteuse spéciale de l'ONU considère la France comme coupable de violation des droits de l'homme dans sa gestion des sans-abri. Elle est restée 10 jours en France, Leilani Farah, pour préciser qu'en France, le système est tel que de nombreuses personnes n'ont même pas accès aux services d'hébergement d'urgence les plus basiques. Elle a essayé d'appeler le 115, le numéro que les personnes à la rue doivent appeler pour essayer de trouver un logement, et précise qu'elle a attendu près de 2 heures avant d'avoir quelqu'un au téléphone, pour ne pas avoir de place. Elle précise que la mise à l'abri saisonnière qui est pratiquée en France, hein, qui consiste à abriter des gens l'hiver pour ne pas qu'ils meurent sur le trottoir et qu'ils dérangent la vue des passants, n'est qu'une manière cruelle de gérer le sans-abrisme. Elle précise aussi que les expulsions et évacuations menées à travers le pays dans des contextes divers sont en violation du droit humanitaire international. Sur ce point, elle cite surtout et en particulier ce qui se passe à Calais, où toutes les 48 heures, les campements des personnes qui veulent passer en Angleterre sont détruits par la police. Elle dit qu'elle ne voit pas beaucoup de consultations entre le gouvernement et les groupes concernés, qu'il s'agisse des migrants, des femmes victimes de violences, des Roms, des communautés d'origine immigrée ou des demandeurs d'asile. Et elle s'étonne, car la France est, dit-elle, un pays riche. Le sans-abrisme et le nombre de morts sans-abri ne sont pas acceptables, vu les ressources disponibles. Et pour compléter ça, l'Obs se rappelle, en citant le collectif des morts à la rue, comment au moins 566 personnes sont mortes dans la rue l'an dernier, âgées de 49 ans en moyenne. Et cette même association précise que le nombre réel, parce que ça c'est ce qu'ils ont recensé, est 5 à 6 fois plus important.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et pour commencer avec cette rubrique nationale, on va parler de la grève des urgences parisiennes qui commence à grossir. Elle est partie des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, en grève illimitée du personnel soignant. Et du coup, en fait, il y a maintenant plus de 6 endroits qui suivent cette grève. Du coup, ça a commencé le 18 mars, après n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante de la direction face à la multiplication des agressions aux urgences. Le personnel du service a décidé de se mettre en grève. Depuis, il tient bon et leur mouvement fait tache d'huile. Le collectif Interurgence fédère des représentants de tous les services mobilisés. Il assure avoir des échanges avec des collègues de 25 services d'urgence de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Et au-delà aussi, à Toulouse, à Creil, Aix, Saint-Malo, Valence, etc. Olivier Youinou, le secrétaire général du Santé Sud à l'APHP, essaie de se remémorer quand le monde hospitalier a connu un mouvement semblable, et il dit que c'est probablement en 1988. C'était alors la grande grève infirmière qui avait réuni jusqu'à 100 000 blouses blanches à Paris. Le pouvoir socialiste avait choqué l'opinion en usant contre elle de canons à eau avant de céder. L'ampleur du mouvement social aux urgences, encore frémissant, n'est pas comparable. Mais les ressorts sont ressemblants. À Paris, se met sur pied une coordination de soignants de terrain. Il n'y a aucun médecin, seulement des infirmières et infirmiers et des aides-soignants, aides-soignantes. Les syndicats ne font qu'assister cette mobilisation. Ils déposent les préavis de grève et participent aux négociations avec la direction. Le collectif Interurgence, dans un communiqué publié le 15 avril, prévient que le développement des urgences atteint ses limites, avec une activité arrivée à saturation. Il reprend les revendications initiales des urgences de Saint-Antoine, à savoir une prime de 300 euros mensuels, en reconnaissance de la difficulté du travail et pour lutter contre le turnover qui freine les recrutements. Et il réclame aussi des effectifs ajustés aux recommandations du syndicat SAMU Urgences de France. Or, la PHP est très loin de ses demandes. Il manque par exemple 700 postes dans les 25 services d'urgence pour satisfaire ses recommandations. Et le directeur des ressources lui-même a lui-même chiffré le déficit abyssal lors de la première séance des négociations lundi et a proposé aux grévistes 61 postes. Voilà. Le directeur général Martin Hirsch met aussi sur la table une prime unique de 250 euros et il dit que désormais, la PHP adopte, bien qu'il n'existe aucune réglementation en ce sens, une règle selon laquelle les effectifs des urgences évolueront proportionnellement à l'activité. La dégradation des conditions de travail, elle est vraiment effective sur le terrain. Si on n'est pas dans une situation d'urgence vitale, on peut attendre aux urgences. Là, je cite une infirmière qui s'est exprimée là-dessus et qui dit « On peut attendre jusqu'à 6 heures pendant lesquelles il ne se passe rien. Puis, on est installé dans un box. Il faut encore attendre 1h30 avant qu'un médecin se présente et encore 1h30 pour que l'infirmier fasse les soins. » Une autre infirmière, de nuit cette fois, explique à Mediapart « Je travaille depuis 5 ans à la Pitié-Salpêtrière. Au départ, il y avait des périodes plus calmes. Cela n'existe plus. On manque de personnes. Il y a des arrêts longue durée et des congés maternité qui ne sont pas remplacés. On fait appel à des intérimaires, aux heures supplémentaires, mais ça ne suffit pas. On court sans cesse après le matériel parce qu'on manque de tout, des brancards, des pieds de perfusion, des appareils pour prendre les constantes vitales, etc. On commence à être épuisé moralement et physiquement. » À Saint-Antoine, des aides-soignants déclarent que les personnes âgées, elles, sont mises sous contention physique et parfois aussi chimique avec l'usage d'énormément de médicaments. Et en décembre, on se rappelle aussi qu'une femme de 55 ans est décédée sur un brancard dans un couloir des urgences parce qu'elle a été oubliée par des équipes dépassées. Les équipes, elles font aussi face à un nombre de patients importants atteints de pathologies psychiatriques. Et là-dessus, Olivier Yonou du syndicat Sud estime que ces patients représentent 20% de la fréquentation des urgences et que c'est le résultat d'une politique de fermeture des lits. Avant, il y avait des infirmiers psy qui étaient là pour accompagner ces patients, mais leurs postes n'ont pas été remplacés et ce métier n'existe plus. À cette violence institutionnelle répond la violence des patients qui est grandissante. À l'origine du mouvement de grève de Saint-Antoine, il y avait l'agression le 13 janvier de 3 membres du personnel, dont une infirmière qui a reçu un coup de poing. Et dans tous les autres services dont on a parlé et qui sont en grève aussi, il y a eu de nombreux cas où le personnel a subi des violences de la part de patients qui étaient complètement à bout. Le seuil de tolérance à la violence y varie selon les établissements, mais par exemple, à Lariboisière, je cite un des infirmiers, on banalise même les violences physiques, elles sont trop fréquentes et on ne porte même plus plainte. Donc situé dans le nord-est de Paris, cet hôpital est sans nul doute l'un des plus exposés à la très grande précarité, aux difficultés d'accès aux soins, à l'exposition de la fréquentation des urgences. Les membres du personnel interrogés déclarent aussi craindre des décompensations et des violences de la part cette fois du personnel. Ces urgences reçoivent dans des locaux exigus 100 000 malades par an et en septembre le service... il y a eu une citation ici, enfin je vais vous citer une infirmière qui dit « On se retrouve à devoir passer un rapport de force pour des choses dérisoires, vraiment évidentes. Des brancards qui roulent, tout simplement, des portes sécurisées, un agent de sécurité. » Et elle dit qu'elle fait face à une direction qui fait des comptes d'apothicaire. Bref, c'est face à un mur administratif et budgétaire que le collectif interurgence est déterminé à briser. Et pour le moment, les grévistes se retrouvent face à tout cela sans pouvoir dépenser plus d'énergie que dans justement des demandes assez ponctuelles et assez précises. Et le lundi 15 avril, la PHP il estimait à 30% le nombre de soignants grévistes dans ses services d'urgence, alors qu'en réalité 90% des soignants et des soignantes sont en grève dans les services mobilisés. Les médecins, eux, soutiennent, mais en fait ils sont tenus à distance parce que ce que craignent les infirmiers, les infirmières et les aides-soignants et aides-soignantes, c'est que le corps médical confisque un peu le débat sur le système de soins, ce qui serait d'autant moins légitime qu'ils ne sont pas concernés pour l'instant par les suppressions de postes que frappe la PHP. Et du coup, on leur souhaite une longue et victorieuse lutte.
Eh bah oui. Eh bah on va parler d'un autre truc qui craint, c'est que la police, bah cette semaine encore, bah c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde ? Parce que la police, elle fait de plus en plus n'importe quoi grâce aux nouvelles lois notamment. Par exemple, on a vu qu'à Nantes, vendredi dernier, veille de la manif des Gilets jaunes, il y avait des gens qui s'étaient donné rendez-vous dans une AG publique pour confectionner des banderoles. Ils s'étaient donné rendez-vous, attention, vu que c'était ultra secret, enfin faire des banderoles, c'est pas du tout dangereux ni rien. Ils s'étaient dit, bah, on a qu'à se donner rendez-vous à un abri de bus. Et bah qu'est-ce qui s'est passé ? Giro, grosse voiture, tout ça. Il y a plein d'équipages de flics qui sont arrivés, qui ont placé 15 personnes, enfin qui ont interpellé 15 personnes et placé 14 en garde à vue pour participation à un attroupement formé en vue de la préparation de violences volontaires ou de destruction et dégradation. Voilà, voilà, donc le premier point tout bizarre sur les actions de la police ces derniers temps et la répression énorme. Mais heureusement, nous sommes protégés par la démocratie et les soldats de la démocratie comme Jacques Toubon. Jacques Toubon, le fameux défenseur des droits qui porte bien son nom, on en parle assez souvent, parce que Jacques Toubon, il est remonté contre la police aussi, puisque en 2014, il y a Le Parisien qui révélait une note interne à la police parisienne, coordonnait aux fonctionnaires de police de, ouvrez les guillemets, localiser les familles roms vivant dans la rue et de les évincer systématiquement. Voilà, et... qui était appliquée dans le 6e et 4e arrondissement de Paris, cette consigne sur instruction du commissariat central. Donc Jacques Toubon, il s'est penché là-dessus, il souligne que c'est des ordres et des consignes discriminatoires, bien sûr, qui enjoignent à procéder à des contrôles d'identité sur des personnes en fonction de leur race. Il rappelle que ça, bah, bien sûr, c'est interdit. Il rappelle aussi que les policiers qui ont suivi ces ordres ont suivi des consignes qui sont manifestement illégales. Et Jacques Toubon, il est tellement en colère qu'il a menacé de faire des poursuites. Bon, il ne les a pas faites visiblement. Et il a dit aussi que ce serait bien qu'il y ait une enquête interne. Voilà, Jacques Toubon est très en colère. On imagine qu'il risque de ne pas se passer grand-chose, mais il se passe quelque chose quand même. On m'apprend ce qu'on me fait circuler une note du Guinness Book. Nous sommes au 28e suicide dans la police pour cette année 2019. C'est plutôt, en termes de record, une année assez intéressante, puisqu'en 2018, il y avait 35 policiers et 33 gendarmes qui se sont suicidés, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur. Donc 28 pour la police au mois d'avril. On imagine qu'en termes de record, cette année sera excellente.
Et maintenant, on va parler de Notre-Dame de Paris quand même, parce que bien sûr, il faut que nous aussi, on en parle. J'espère que vous n'en avez pas trop marre, mais si, bien sûr que vous en avez marre, parce que le traitement médiatique de cet incendie est absolument dégueulasse. Et c'est de ça dont on va parler, entre autres. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut regretter une chose, déjà, c'est que ce soit Notre-Dame de Paris, bâtiment historique qui démontre le savoir-faire artistique et architectural du Moyen-Âge, qui est brûlé, alors que ça aurait pu être le Sacré-Cœur, par exemple, qui est un monument construit en 1875 pour rappeler au bon peuple communard que ce sont bien les bigots et ceux qui sabrent les peuples qui sont aux commandes. Mais dans cette histoire, surtout, comme très souvent en ce moment, les récupérations vont bon train. BFM TV, par exemple, obligation du direct oblige, a fait défiler non pas les représentants des monuments nationaux, pas plus les historiens, mais des archevêques, des Dany de Morano, des représentants avant tout de la droite conservatrice et du culte catholique. Notre-Dame de Paris, bâtiment historique classé au patrimoine historique de l'humanité, propriété de l'État français laïque, était mardi avant tout dans la représentation de la France catholique et réactionnaire. Une collecte nationale a été immédiatement mise en place. Toutes les grandes entreprises, tous les grands bourgeois et les grandes bourgeoises de France se souviennent de la loi Aillagon de 2003, destinée à favoriser le financement de la culture. Les entreprises peuvent déduire à 60% de leurs dépenses en faveur du mécénat. Autant dire que si Notre-Dame est rapidement reconstruite, ce sera aux frais du contribuable indirectement, voire directement. Ah, il y en a un qui n'a pas honte aussi, c'est Laurent Wauquiez qui a annoncé que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il préside, verserait 2 millions d'euros. Notre président de région, après avoir réduit drastiquement les aides à la culture, jeté au bûcher d'innombrables associations, enfin celles qui ne font pas de la chasse, et même réduit à 40 000 euros la subvention pour le mémorial des enfants d'Izieux, retourne sa veste et devient mécène d'une entreprise culturelle. Bon, la laïcité et la culture ont bon dos. Il faut le dire, qu'en cette période électorale, toute médiatisation est bonne à prendre et les votes de la droite catholique sont en vente libre. On est loin du mutisme politico-médiatique quand le 28 novembre 2017, le CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, partait lui aussi en fumée. Un an et demi après, l'île fait face à une crise sanitaire dans l'oubli le plus total. On pourrait aussi parler de l'émotion internationale, ce bébé du tourisme de masse et de l'architecture iconique qui vise à promouvoir quelques bâtiments ultra-médiatiques pendant que les centaines de chefs-d'œuvre architecturaux sont à l'abandon. Cette même émotion internationale qui se meut quelques secondes à peine quand le 14 juin 2017, la tour Grenfell à Londres brûle, tuant 71 personnes. 6 mois plus tard, de nombreux et nombreuses habitantes de la tour étaient toujours relogés dans des hôtels. Les logements sociaux peuvent brûler avec leurs occupants dans le mépris le plus total, tant qu'ils n'attirent pas les touristes. Faut-il également rappeler que le 5 novembre 2018, ce sont 8 personnes qui ont trouvé la mort dans l'effondrement de leur maison au 65 rue d'Aubagne à Marseille, alors que dans l'insalubrité la plus totale, les logements étaient dénoncés depuis plus de 20 ans. En janvier 2018, la SOLEAM, l'organisme municipal supervisant la rénovation du centre-ville, répéta qu'il n'y avait pas de péril en la demeure et que les travaux envisagés pour la résorption de l'habitat insalubre à Noailles seraient donc remis à une date ultérieure, un diagnostic étant envisagé en 2020. Là encore, bien peu d'indignation nationale et des personnes qui ne sont toujours pas relogées des mois après. Malheureux de voir que si on souhaite soutenir la restauration d'une église, le mieux c'est d'y foutre le feu.
Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le leggi, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e re. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se
c'était une petite chanson de la tradition des chants anticléricaux italiens. Il y a une un gros répertoire de chants italiens contre l'Église. Et celui-ci, il nous invite à aller brûler le Vatican aussi, avec si possible le pape à l'intérieur. Et si le gouvernement s'y oppose, eh ben, révolution.
Ah, voilà une belle chanson. Et puisque ça dérange personne de financer des grands monuments à la gloire du christianisme et du catholicisme, et bien visiblement ça dérange toujours des gens que des femmes choisissent de porter le voile dans le quotidien. Mais ces gens n'auront qu'à être moins dérangés dans les temps qui arrivent, puisque la cour d'appel de Versailles a donné raison ce jeudi à une salariée qui en 2008 avait été licenciée pour avoir refusé de retirer son voile. Elle s'appelle... Là, j'ai perdu son nom dans l'article, Asma Bougnaoui, et du coup elle travaillait dans une société de conseil informatique. Elle a refusé d'ôter son voile au travail quand elle était chez un client et le tribunal a condamné son employeur Micropole à lui verser une indemnité de 23 000 euros. Donc c'est pas mal, 23 000 euros, mais il faut quand même souligner que ça vient 11 ans après. Voilà, en fait, ils n'avaient rien à lui reprocher sur son travail, c'est qu'elle avait été mise à disposition chez Groupama et que Groupama s'était plaint du fait qu'elle porte le voile et qu'elle refuse de l'enlever pendant qu'il travaillait chez eux. La société Micropole a décidé de la licencier et cet article rappelle que ça devrait servir de jurisprudence et du fait que le voile est autorisé dans le secteur privé, à moins qu'un règlement intérieur précis ne l'interdise formellement. Voilà, voilà.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
international, un peu, presque pas du tout, on sait plus. En tout cas, ce qu'on va vous parler, c'est de la marchandise, parce que ça, c'est bien international, et le fait que la marchandise ce soit la mort, ça, c'est sûr, c'est international. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine autour de cette horrible marchandise? Eh bien, figurez-vous qu'il pleut de la neige, du plastique en Ariège. Et oui, des chercheurs ont retrouvé des particules de microplastique dans des pluies et des neiges tombées dans un coin reculé des Pyrénées ariégeoises, qui ont été transportées, du coup, par le vent. Ces chercheurs qui ont publié l'article dans la revue Nature Géosciences n'ont pas réussi à savoir d'où venaient ces micro-particules de plastique qui, bien sûr, sont invisibles à l'œil nu. Et il faut quand même préciser qu'ils les ont quand même pas retrouvées au bord d'une nationale en Ariège, mais bien en plein milieu d'une zone protégée Natura 2000, située à plus de 5 km de tout village et à 120 km de Toulouse. Voilà, pour parler de la marchandise qui pue, on peut aussi parler des tote bags. Vous savez, ces petits sacs en coton qu'on retrouve de partout et qui sont là pour éviter, bien sûr, qu'on consomme trop de sacs. On a vu sur internet que, par exemple, un sac, il faudrait l'utiliser des centaines, voire des milliers de fois pour que ça remplace les sacs en papier, et notamment du fait que ça devient un objet publicitaire et qu'il se répande de partout, sous prétexte écologique. On produit, et on fait des gens des porteurs de pub. Et dans ces tote bags, qu'est-ce que vous allez mettre? Bien sûr, d'autres marchandises, comme des fraises importées. Un petit article du Guardian, relayé par le magazine Glamour, expliquait que ce qui se cache derrière ces fraises importées. Alors, ce qui se cache derrière ces fraises importées, là on parle des fraises qui viennent d'Espagne, c'est déjà beaucoup de caillasse, puisque l'export de fraises rapporte 580 millions par an à l'Espagne. Et qu'est-ce qui se cache derrière la marchandise et la caillasse? Il se cache l'exploitation de femmes et puis des viols. Parce que qui c'est qui va ramasser ces fraises en Espagne? Ce sont des ouvrières immigrées marocaines qui viennent travailler juste une saison grâce à un joli visa créé par le gouvernement espagnol en 2001. Elles travaillent dans des conditions qui ressemblent à la traite d'humains, où les agressions sexuelles sont quotidiennes, où le racisme et l'exploitation sont aussi quotidiens. C'est des endroits où on va travailler plus de 12 heures par jour sans interruption, où des femmes vont parfois se voir refuser leur paye, où d'autres femmes vont être privées de nourriture ou d'eau quand on les juge pas assez productives ou qu'elles ont voulu prendre une pause. C'est des femmes qui sont logées dans des containers en plein soleil qui sont étroits et sales, avec des sanitaires en sale état. Et comme si ça suffisait pas, avec cette exploitation du travail, il y a une exploitation sexuelle, puisque ces femmes-là racontent des situations de viol. Elles racontent des pressions quand elles veulent de la nourriture et de l'eau. On leur fait pression pour qu'elles l'échangent contre des relations sexuelles. Elles racontent aussi des ordres à se prostituer. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'État ferme les yeux. Une militante d'un collectif de droits des femmes, Mujeres 24, Alicia Navesquez, dénonce ce qui se passe là-bas comme un trafic bien ficelé, puisqu'elle rappelle que les gens qu'on va chercher au Maroc, c'est des gens qui sont vulnérables et peu coûteux. Ils vont chercher des femmes dans les zones rurales, ayant des jeunes enfants qui ne comprennent que l'arabe, et donc qui ne peuvent pas comprendre les contrats écrits en espagnol, ni faire valoir leurs droits. Et puis, une fois de plus, comme ça suffisait pas, il se reproduit des choses qu'on a déjà entendues ailleurs, comme le fait que quand ces femmes qui sont exploitées sous les serres de fraises veulent aller porter plainte, la police ne reçoit pas les plaintes ou ne les fait pas suivre. Et puis, les tribunaux, eux aussi, font obstruction, ce qu'ils veulent pas ouvrir d'enquête, en disant qu'ils n'ont pas assez de preuves. Le gouvernement espagnol a, lui, nié l'année dernière le fait que des plaintes aient été déposées. Depuis qu'elles ont porté plainte, certaines accusatrices n'ont ni logement, ni aucune ressource. Leur visa de travail saisonnier est arrivé à expiration. Elles refusent de quitter le pays tant qu'elles n'auront pas obtenu justice, et aussi car elles n'en ont plus les moyens. Voilà, il y a aussi certaines femmes qui, après avoir vécu tout ça, sont désavouées par leurs parents et leurs maris au Maroc. Et en termes de chiffres, en termes de nombres, pour se rendre compte un peu, ça représente 20 000 femmes marocaines qui vont arriver en Espagne dans les prochains mois pour ramasser ces fraises, ces bonnes fraises que vous mettez dans des tote bags et dont vous récupérez les petites particules de plastique des barquettes dans les montagnes ariégeoises.
Et ouais. Par ailleurs, et ben, même si les peuples marocains et surtout les marocaines du coup se font exploiter, et ben, il y a d'autres peuples qui des fois arrivent à se révolter, notamment au Soudan. On en a déjà parlé la semaine dernière, où du coup le chef de l'État soudanais a été arrêté par l'armée et remplacé du coup par le chef de l'État a été remplacé la semaine dernière, comme je vous le disais, par l'ancien ministre des armées. Et donc du coup le peuple soudanais s'est pas fait avoir et du coup a dit tout de suite: arrêtez de nous prendre pour des bleus, on se rend bien compte que c'est le même et que c'est toujours l'armée et toujours la même junte et clique politique qui gouverne le pays. Et du coup, et ben, depuis jeudi dernier, il continue à y avoir un rassemblement et un sitting devant le siège de l'armée à Khartoum et continue à avoir des manifestations quotidiennes. Les militaires du coup qui cherchent du coup depuis la semaine dernière une solution ont promis de remettre le pouvoir aux civils mais n'ont pas dit quand, et en fait leur but c'est surtout d'essayer de faire rentrer les foules chez elles. Et donc il y avait plusieurs milliers dimanche soir de personnes devant le siège de l'armée et il y a eu une tentative de dispersion du sit-in. Et des témoins ont expliqué que ce sont des véhicules de l'armée qui ont encerclé le sit-in, même si l'armée, elle, dément tout à fait. Et alors, pourquoi les manifestants et manifestantes sont toujours là ? Eh bien, parce qu'ils réclament le transfert du pouvoir à un gouvernement civil de transition, et surtout à faire juger l'ex-président et les dirigeants de son régime. Seulement, pas de bol, eh ben, les dirigeants de son régime sont encore au pouvoir. Du coup, c'est pour ça que les manifestants et manifestantes n'ont pas participé aux négociations de dimanche, notamment à cause du fait que ces négociations étaient présidées par le parti du Congrès national, qui est du coup le parti du dictateur déchu. Donc effectivement, ça ne présageait pas non plus de négociations complètement habiles. Et notamment aussi pourquoi ? Et bien parce que le nouvel homme fort du régime, qui s'appelle Abdel Fattah al-Burhan, et bien en fait est l'un des généraux responsables non seulement de la répression et du génocide au Darfour, mais aussi très lié au pays du Golfe, et qu'il a commandé des troupes soudanaises au Yémen dans le cadre de l'intervention militaire de la coalition menée par l'armée saoudite. Pourquoi, me direz-vous, il a joué un rôle fort dans le génocide ? Eh bien, notamment parce qu'il a protégé l'un des principaux protagonistes militaires de ce génocide, qui s'appelle Mouhamad Hamdam Diaglago, et qui est appelé Emeti. Et surtout parce qu'il a institutionnalisé une ancienne milice, qui est la milice des Janaouides, et qui faisait régner la terreur au Darfour. Et donc, du coup, cette milice est maintenant sous commandement des services de renseignement soudanais, et s'occupe de la chasse aux migrants dans la région, avec le soutien notamment des pays européens. Et aussi pourquoi ? Et ben parce que ce Abdel Fattah al-Burhan, et ben en fait c'est un proche du chef des services de renseignement qui s'appelle les NISS, Salah Gauche, qui est du coup lui coupable d'un certain nombre d'exactions, notamment contre les opposants au régime, et qui dès sa nomination du coup au gouvernement, et ben a été attaqué par les manifestants qui ont réclamé sa démission. Et donc lui, il a été contraint, Salah Gauche, à la démission et à la retraite, mais seulement en fait il est toujours libre malgré ses nombreux crimes, et du coup c'est pour ça que les manifestants refusent toujours de négocier, parce que tous les criminels de l'ex-dictature du coup sont toujours en place. Et par ailleurs, en même temps du coup de ces mobilisations au sein du Soudan, et ben au Darfour, où il y a à peu près énormément de personnes de Soudanais et de Soudanaises qui sont réfugiés là-bas, et bien ces Soudanais et ces Soudanaises ont pris d'assaut les bureaux des services de renseignement, notamment où Nefertiti, où le responsable du coup de l'administration en fait lors du génocide, et ben était le général al-Burhan, donc du coup le nouvel homme fort du régime. Ce vendredi du coup, donc aujourd'hui même, il y a eu de nouvelles mobilisations à Khartoum. Des milliers de manifestants et manifestantes ont convergé vers le QG de l'armée pour venir raggrossir les rangs du sit-in. L'opposition civile du coup, qui est constituée notamment par ce qui s'appelle l'association des professionnels soudanais, a annoncé qu'il ferait d'annonces importantes ce dimanche, où en fait ils vont nommer un conseil civil en charge de reprendre les affaires du pays. Du coup, c'est une espèce de tentative de, voilà, de créer un conseil civil qui devrait prendre la place des militaires. Et donc, du coup, bah, ce conseil civil, les membres de ce conseil civil seront annoncés par voie de presse dimanche à 19h devant le quartier général du coup, de l'armée. Et du coup, ça, c'est une annonce qui est reprise notamment par l'Union des pays africains qui demande aux militaires de transférer le pouvoir aux civils d'ici à 15 jours. Et du coup, on essaiera de vous donner la suite de la lutte au Soudan. Mais en tout cas, pour l'instant, cette révolution au Soudan, du coup, a l'air de fonctionner de mieux en mieux. Donc on leur dit bravo aussi.
Et pour finir dans cette rubrique internationale, on va partir au Venezuela. Où au Venezuela, la mauvaise nouvelle pour certains est une très bonne nouvelle pour d'autres, parce que au bord de la guerre civile, le Venezuela est ruiné. Mais pour certains, c'est une excellente nouvelle. À New York, Londres ou Paris, les avocats et avocates, les banquiers et banquières d'affaires reprennent espoir. La bataille qui oppose le président Maduro et Juan Guaido pourrait tourner à leur avantage. Ce qui réjouit les banques, les sociétés de gestion et les fonds vautours. La dette, estimée à 190 milliards de dollars, est détenue par une diversité exceptionnelle de créanciers. Un trou sans fond, ou non, une potentielle mine d'or pour certains. Car la résolution de la faillite du Venezuela s'annonce comme la plus complexe de tous les temps, donc la plus juteuse en honoraires, commissions et spéculations diverses. La banque américaine Goldman Sachs, par exemple, adore cet ancien Eldorado doté de première réserve mondiale de pétrole. En 2017, elle a acheté pour 865 millions de dollars de dette publique, au tiers de sa valeur, dans l'espoir de revendre ses obligations à la hausse dès que le ciel s'éclaircira au-dessus de Caracas. Il restera aux créanciers de choisir la corde et le nouveau nœud à passer au cou des Vénézuéliens, plutôt coulant, avec effacement d'une bonne partie de la dette, ou bien serré, avec baisse de revenus et folle privatisation.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Salut les enfants, salut Mathieu, vous êtes souvent beaucoup nombreux et nombreuses à nous demander ce que ça veut dire ACAB. Alors cette semaine, vous avez vu à la télé, il y a les voitures de flics qui brûlent, il y a le Phuket, il y a le commissariat, il y a les banques, il y a les magasins de luxe, il y a les voitures de luxe, il y a les trottinettes électriques, il y a les cocktails Molotov, des fois même il y a la police qui brûle.
Et il y a ACAB, les CRAS qui brûlent des fois aussi.
Oui, il y a les CRAS, les prisons, il y a plein de choses qui brûlent. Et du coup, pour savoir ce que ça veut dire ACAB, on a interviewé une personne, une grande scientifique pro de l'émeute et des engins incendiaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ACAB cette semaine ?
Apparemment, les cathédrales aussi, ça brûle.
ACAB.
Et ce Canu Info est fini pour ce soir.
On n'a pas fait l'agenda, mais on peut vous dire comme d'habitude que vous pouvez le retrouver sur le magnifique site rebellion.info.
Et que c'est le printemps libertaire et que du coup il y a plein de choses qui se passent et que vous pouvez aller retrouver le programme entier sur effectivement Rebellion.
Par exemple, comme on vous a déjà dit, dimanche soir à 18h, soirée contre les frontières et les CRA à l'amicale.
Il faut lire rebellion.info.
Oui, tout à fait. Mercredi matin à 7h, un petit rassemblement si vous vous ennuyez.
Et je crois que tout de suite, là, ça va être une émission qui rime avec rébellion, c'est Noise Pollution.
Oh, monsieur est poète.
Pour une fois qu'on commence, qu'on finit et à bien, l'avance.
Merci d'avoir écouté le Canu Info et préparez vos oreilles car Noise Pollution arrive vraiment bientôt.
Très bientôt.
Merci
très bientôt,
beaucoup d'avoir été à l'écoute du Canu Info et de Radio Canu.